RFI 8h30, à Paris 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Pierre Boudias.
L'Union européenne promet des sanctions. L'ONU craint une escalade régionale. Réaction internationale à l'avancée des rebelles du M23 sur Bukavu dans l'est de la RDC, la capitale provinciale du Sud Kivu, où la situation reste incertaine. Le Djiboutien Mahamadou Ali Youssouf à la tête de la Commission africaine. Il l'emporte face au favori kényan Raila Odinga. Une nouvelle défaite électorale pour l'ancien Premier ministre, très commenté à Nairobi. L'UA qui entend bien se passer des Fitch, Standard & Poor's et autres Moody's, des agences de notation américaines jugées trop sévères avec les pays du continent. Les États membres entendent donc lancer leur propre agence pour contrer cette influence. Et puis le ramadan pourrait peser lourd dans le portefeuille des Tchadiens. À un mois du mois sacré pour les musulmans, l'inflation hérisse les associations de défense des consommateurs et l'appel des autorités à réguler les tarifs est loin de calmer les inquiétudes. La percée de l'AFC M23 se poursuit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les membres de la milice soutenue par l'armée rwandaise sont actuellement dans les rues de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Information confirmée de sources gouvernementales. Des rebelles qui appellent les habitants à s'organiser. Cette nouvelle avancée, malgré des appels au cessez-le-feu qui se multiplient ces derniers jours, fait bien sûr réagir à l'international. Réaction entre inquiétude et promesses de fermeté, Pauline Azidi.
Condamnation ferme du côté de l'Union européenne. La diplomatie de l'UE s'alarme du non-respect du cessez-le-feu et promet que la violation de l'intégrité de la RDC ne restera pas sans réponse. L'UE, je cite, examine d'urgence tous les moyens à sa disposition. On sait que l'idée de sanctions a plusieurs fois été évoquée du côté de Bruxelles, mais que les États membres sont encore divisés sur la question. Forte inquiétude aussi du côté des Nations Unies, comme lors de la prise de Goma, Antonio Guterres hausse le ton et prévient du risque d'escalade régionale, un discours que le chef des Nations Unies a tenu en marge du sommet de l'Union africaine. Il est d'ailleurs l'une des rares voix à Addis Abeba à avoir évoqué cette nouvelle offensive du M23. Aucune mention de la situation à Bukavu dans les prises de parole, si ce n'est Moussa Faki Mahamat, président de la commission, qui a réclamé vendredi l'application du cessez-le-feu demandé la semaine dernière par les régions est-africaines et australes lors d'un sommet extraordinaire en Tanzanie. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et sur le réseau social X, le président français assure s'être entretenu avec son homologue congolais Félix Tshisekedi ces dernières heures. Emmanuel Macron appelle au cessez-le-feu et à des garanties de sécurité pour les autorités civiles et militaires congolaises. À Bukavu, le chef de l'État qui interpelle le Rwanda, Kigali, appelé à soutenir la mise en œuvre de mesures d'urgence, notamment pour la reprise des vols civils et humanitaires vers l'aéroport de la région. Un dossier congolais qui n'aura pas été évoqué officiellement hier lors du premier jour du sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba, mais la première ministre congolaise qui représente Félix Tshisekedi à ce sommet de l'Union africaine a refusé de prendre place sur la photo officielle, hors de question de s'afficher aux côtés de l'agresseur, explique-t-on dans son entourage, une référence à la présence d'une délégation rwandaise lors de cette réunion. Et l'événement majeur du premier jour de ce sommet dans la capitale éthiopienne aura finalement été l'élection du futur président de la commission de l'organisation. Une compétition serrée jusqu'au bout, 7 jours de vote et au final une petite surprise. L'actuel ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, élu pour succéder à Moussa Faki Mahamat. Victoire avec 33 voix sur 49 contre le Kenyan Raila Odinga, pourtant parti en tête au premier tour. Et au Kenya, la candidature de cette figure de l'opposition, ancien Premier ministre, a été suivi de très près. Les réactions ont donc afflué dans la soirée après sa défaite. RFI Alban Tiroir.
C'est devant la presse que Raila Odinga a concédé sa défaite hier. « Je compte désormais rentrer à la maison, plusieurs choses m'y attendent », a-t-il conclu. Rentrer à la maison et retrouver son rôle d'opposant historique, c'est justement l'appel qu'ont lancé ses soutiens au micro des chaînes de télévision kenyanes. D'autres sur les réseaux sociaux ont au contraire appelé ce vétéran de 80 ans à se retirer de la politique. « Il faudra qu'il se réinvente », affirme un analyste, rappelant que Raila Odinga a bénéficié du soutien de son ancien rival William Ruto pour cette course à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La campagne a été active, aussi bien par le candidat déchu que le chef de l'État. Tous deux avaient multiplié les rencontres pour allier des soutiens. Cette défaite, c'est donc une surprise pour certains au Kenya, un revers diplomatique pour William Ruto. Les commentateurs politiques mettent en avant plusieurs facteurs. Les dynamiques des différents blocs du continent d'abord, puis la langue. Mahamoud Ali Youssouf parle arabe, français et anglais. Il est aussi plus jeune, âgé de 59 ans. Son profil d'ancien ministre des Affaires étrangères, enfin, a également pu jouer en sa faveur. William Ruto l'a en tout cas félicité pour sa victoire, l'assurant du soutien du Kenya. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et au micro de RFI, Raila Odinga a salué une victoire de la démocratie et s'est dit disponible pour aider le continent africain. L'autre perdant du jour, le malgache Richard Randriama Drato, a lui demandé à Mahmoud Ali Youssouf de réformer l'Union africaine pour un meilleur accompagnement de la croissance du continent. Le nouveau président de la commission, qui sera épaulé à la vice-présidence par l'Algérienne Selma Haddadi, elle aussi élue hier. Et parmi les dossiers qui seront sur la table de la nouvelle commission de l'UA, celui de la création d'une agence de notation panafricaine, une éventualité à nouveau discutée ces dernières heures, alors que les agences occidentales sont accusées d'appliquer des biais injustes aux pays africains, biais qui conduiraient à des notations faussées. Les dirigeants souhaitent donc créer leur propre agence qui intègre des données et des indicateurs spécifiques au continent. L'AFCRA devrait être officiellement lancée en juin prochain. Les détails avec Charlotte Cosset.
Voir sa note fortement dégradée et être considéré comme un pays dit poubelle par l'agence Fitch a été la goutte d'eau pour le président éthiopien Taye Atke Selassie.
Malgré les progrès que nous avons réalisés, les agences de notation internationale présentent souvent une vision déformée et peu constructive de nos économies. Leurs évaluations sont imprévisibles et incohérentes. Ce manque d'objectivité dans la notation de nos économies a d'une part gravement entravé notre capacité à accéder aux capitaux et d'autre part cela limite notre capacité à nous intégrer dans le système financier mondial.
Des biais des agences de notation qui aurait fait perdre 75 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au continent, selon une étude citée par le président kényan William Ruto.
Une agence de notation africaine, selon moi, n'est pas seulement une alternative, c'est un impératif. Cette agence doit être crédible au niveau mondial, s'appuyer sur des données rigoureuses, répondre à des normes d'évaluation strictes. Mais surtout, elle doit refléter correctement la réalité de l'Afrique. Nous ne ferons pas ce voyage seul. Nous construirons des alliances fondées sur des valeurs communes de dignité, d'équité et de progrès.
Selon la même étude citée par William Ruto, la revalorisation d'un cran des notes africaines permettrait de débloquer 15 milliards de dollars d'investissement.
Charlotte Cosset a noté que le président angolais, João Lourenço, très impliqué depuis plusieurs années dans les tentatives de médiation entre RDC et Rwanda, a pris hier la présidence tournante de l'UA, un rôle honorifique auparavant occupé par le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Des usines flottantes pour en finir avec les coupures d'électricité. C'est le pari des autorités gabonaises qui ont signé hier une convention de fourniture de courant avec la société turque Car Powership, l'entreprise qui a en réalité acheminé dès mai dernier deux navires capables de produire 70 MWh des bâtiments amarrés à Libreville. Ils doivent permettre d'équilibrer offre et demande dans le pays. Et si le contrat a été renégocié pour obtenir une baisse des tarifs, les doutes persistent sur la fiabilité de l'énergie produite par ces bateaux turcs. Les précisions à Libreville d'Yves Laurent Gomard.
Trois ministres gabonais ont interrompu leur week-end pour signer la convention. Parmi eux, le ministre de l'Énergie, Séraphin Akouré-Davin, qui soutient que l'accord est une solution d'urgence pour soulager les populations.
Pendant près d'une quinzaine d'années, nous n'avons pas entretenu nos équipements. Nous n'avons pas renouvelé notre parc énergétique. L'accord que nous signons aujourd'hui, c'est l'extrême urgence.
Les bateaux-usines de Car Powership vont dans un premier temps produire l'électricité avec le fioul lourd ou le gasoil. Ces deux combustibles coûtent cher et sont très polluants. Ali Aljahes, directeur des opérations de la société turque, rassure.
Nous sommes prêts à fonctionner avec du gaz, mais je peux vous rassurer aujourd'hui qu'on doit se concentrer sur le succès où on est, qu'on doit se féliciter de cette solution qui est enfin prête à donner la réponse attendue par la population. Progressivement, on va commencer à résoudre les problèmes de délestage et en espérant dans le très court terme donner la réponse définitive et améliorer la situation actuelle à Libreville.
Pour le moment, l'on ne parle pas d'une éventuelle augmentation de la facture chez les consommateurs. Le gouvernement soutient qu'il poursuit les investissements pour sortir rapidement de la situation d'urgence actuelle. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Un mot de ce drame dans le secteur de l'orpaillage au Mali. Au moins 48 personnes ont perdu la vie hier dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans l'ouest du pays. Selon des sources locales, le site, principalement exploité par des ressortissants chinois, était largement surchargé au moment du drame. C'est le deuxième accident de ce type en deux mois au Mali. 70 personnes avaient perdu la vie en janvier dans un autre effondrement, cette fois dans le sud du pays. Au Tchad, à quelques jours du mois de Ramadan, les autorités, les organisations de défense des droits des consommateurs ne parlent plus le même langage. Au cours d'une rencontre avec les opérateurs économiques tenue vendredi, le ministre de Commerce les a interpellés pour qu'ils baissent les prix des denrées alimentaires, de la poudre aux yeux, selon les organisations de défense des consommateurs qui évoquent un nom, un événement.
Natacha, jeune infirmière de retour du marché central de ce samedi, toute furieuse, explique qu'elle a de la peine à remplir son panier. Pour cause, la cherté des denrées alimentaires.
Les prix des mille et autres, tout est élevé. Et encore à l'approche des Ramadan, encore là, ça serait le pire.
Le gouvernement tchadien qui vient d'exonérer des droits et taxes à l'importation de certaines denrées alimentaires dit vouloir alléger le fardeau financier des ménages. Gibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce, interpelle les opérateurs économiques.
Si d'un côté il y a exonération et de l'autre le prix ne fait que grimper, et quiconque viole la loi s'expose à des sanctions.
Un non-événement et même une utopie, estiment les organisations de la société civile. Moussa Mahamat Mahdi, président de la Dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur au Tchad.
Face aux opérateurs économiques très virés, il ne saurait que cet appel puisse être respecté. Donc il faudrait qu'il y ait des politiques concrètes pouvant permettre en fait à la ménagère de pouvoir joindre les deux bouts. Il faudrait également mettre en œuvre des politiques volontaristes afin de juguler la cherté de vie. Et c'est le président de la République qui directement est interpellé.
Les consommateurs tchadiens ne savent à quel saint se vouer, car pour eux, la fin du calvaire n'est pas pour aujourd'hui, alors que le mois du Ramadan commence le 28 février prochain. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Et puis une petite lueur d'espoir pour les proches d'Alassane Souleymane, le haut fonctionnaire nigérien enlevé le 11 janvier dernier par des hommes armés et depuis retenu en otage, a donné un premier signe de vie dans une vidéo enregistrée le 12 février dernier. On le voit assis dans une chambre adressant un message aux autorités nigériennes pour qu'elles se penchent sur son cas. Alassane Souleymane avait été enlevé dans son jardin non loin du parc W, une zone sous contrôle de l'EIGS au sud du Niger à la frontière avec le Bénin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.